Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les auditeurs de Radio Présence. Cette semaine va s'ouvrir ici dans le sanctuaire de Lourdes l'Assemblée plénière des évêques de France. Elle se tient du 3 au 8 novembre. Cette réunion a lieu deux fois par an, en novembre donc et au printemps. C'est une occasion concrète de travail en commun, mais c'est aussi une sorte de réunion de famille hein, où tous les évêques vivent un moment de fraternité épiscopale dans la prière, la convivialité et le soutien mutuel. Indiquons à nos auditeurs qu'à l'heure où nous enregistrons notre émission avec vous, Monseigneur Mika, cette assemblée n'a pas encore commencé. Alors Monseigneur Mika, vous accueillez tous les évêques de France ici à Lourdes, chez vous, dans votre diocèse. Et cette assemblée est une première pour vous. Dans quel état d'esprit, à la veille du début de cette assemblée plénière, vous vous trouvez ?
Bien comme à la veille de toutes les premières, c'est-à-dire un peu impatient de voir la machine se mettre en route demain matin, puisqu'on est aujourd'hui mercredi. Oui. Demain matin, jeudi, l'ouverture se fera par la prière, une prière commune à la grotte que je vais présider. Ce sera une grande émotion pour moi. Que d'accueillir mes frères, mes confrères, et précisément à la grotte de Massabielle. Voilà. Donc mon état d'esprit, c'est que je suis impatient de voir cette machine de l'Assemblée plénière des évêques de France se mettre en route et y participer pour la première fois, puis heureux d'accueillir mes confrères ici même.
Alors vous nous le rappelez, hein, vous êtes donc l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, mais vous êtes aussi membre du collège épiscopal. C'est d'ailleurs pour cela qu'à votre ordination, à une ordination épiscopale, il y a au moins trois évêques qui marquent cette collégialité. Comment déjà, depuis que vous êtes ordonné, vous vivez cette dimension collégiale de l'épiscopat en dehors de l'Assemblée plénière ?
Alors, vous savez que tous les évêques participent d'une manière ou d'une autre à l'une ou l'autre des commissions de la conférence, sauf précisément les évêques qui débutent. On les laisse prendre
pied. Vous avez un an de sursis.
J'ai un an de sursis, donc je pense qu'au printemps, je serai versé dans l'une ou l'autre des commissions de la conférence. Sauf que ce sursis fut de très très courte durée, puisque en attendant cette collaboration avec les confrères, il m'a été demandé, avant que je sois nommé, et puis surtout d'y rester une fois nommé, de rejoindre un des 9 groupes de travail mis en place après la remise du rapport de la SIAZ pour faire des propositions à la conférence au printemps prochain sur la manière de donner suite aux diverses recommandations faites dans le rapport. Et donc, ça me donne l'occasion de me rendre à Paris régulièrement pour travailler, à peu près tous les mois, soit en visio une fois par mois, soit sur place. Et donc, c'est une première façon de travailler avec mes confrères. Et puis, une autre façon, c'est évidemment le travail en province, qui a déjà bien commencé. Notre province ici de Toulouse est pas mal chamboulée du point de vue épiscopal. Il y a pas mal de renouvellement, de changement d'évêque fait et encore à faire. Mais le nouvel archevêque, Monseigneur de Kerimel, nous a déjà mis au travail. Et donc, c'est une façon de faire. Et puis, étant à Lourdes, je vois passer tous les évêques du monde, mais aussi de France. Et chaque fois, c'est avec beaucoup de joie que je les accueille, que nous nous rencontrons d'une manière ou d'une autre.
C'est vrai qu'être évêque de Lourdes, c'est aussi un moyen de rencontrer tous vos frères du monde entier et même parfois d'y aller vous-même, puisque vous êtes allé au mois d'août à Los Angeles pour la clôture de la tournée des reliques de Sainte-Bernadette.
Voilà, donc j'ai rencontré là-bas l'archevêque et puis Gomez, un de ses auxiliaires, le président de la conférence.
Voilà. C'est ça. Alors cette assemblée plénière va être l'occasion d'aborder différentes questions, de poursuivre certains dossiers déjà ouverts. Quels sont ceux d'ores et déjà qui retiennent le plus votre attention ? Alors, on a compris que vous faisiez partie d'un des 9 chantiers. Peut-être, bien sûr, on peut peut-être un peu en parler, mais il y a d'autres dossiers qui vont être ouverts. Est-ce que l'un ou l'autre déjà aiguise votre curiosité plus qu'un autre ?
Oui. La transformation pastorale de nos diocèses, c'est celui dont je prends le conscience de manière la plus vive depuis exactement 5 mois que je suis évêque de Tarbes-et-Lourdes. J'ai déjà rencontré beaucoup de secteurs, de AP, de rencontres de doyennés, de prêtres, etc., même si j'ai pas fini. Et peu à peu se dessinent pour moi des urgences et des priorités. Et la transformation pastorale de nos diocèses en est une. J'ai dû pourvoir tout de suite en arrivant un certain nombre de nominations de prêtres de manière urgente. Et évidemment, j'ai dû faire ce que je ne voudrais pas faire tout le temps, c'est-à-dire, eh bien, voilà, il y a un besoin ici, quel prêtre y met-on, d'où le prend-on, et qui met-on à sa place, et puis au bout de la chaîne, quel espace consent-on à laisser sans prêtre ou à greffer son secteur à... Bon, il faut arrêter de faire comme ça. Et oui, il faut vraiment repenser la manière d'organiser, mais c'est plus que de l'organisation, de vivre l'Église et la mission dans un diocèse rural comme le nôtre. Hein. Et donc, en effet, la transformation pastorale de nos diocèses est un gros dossier, mais aussi la réforme des structures, alors de la CEF, mais qui rejaillit sur la réforme des structures de la province, et notamment un appel à mutualiser beaucoup plus nos forces entre diocèses. Et là aussi, c'est pour moi un chantier assez prioritaire. Déjà, on a ouvert avec l'un ou l'autre évêque, des évêques voisins, hein, l'archevêque d'Auch, pour ne pas le nommer, et puis le métropolitain, l'archevêque de Toulouse, de voir comment mutualiser tel ou tel service, mais plus que service, par exemple, l'enseignement catholique, la direction de l'enseignement catholique. Voilà, c'est un chantier qui est ouvert. Déjà, on vit cette mutualisation à l'échelle de la radio, hein, de Radio Présence. Mmh, c'est aussi sûr, un chantier oui, qui nous mobilise mmh, pas mal. Mmh. Voilà, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Ça me fait penser, par analogie avec ce qui se vit dans les communes rurales, à ce que j'entendais un jour un député dire, il y en a assez de donner des financements à chaque maire pour que chaque maire ait dans sa commune, petite ou grande, sa piscine, sa salle des fêtes, etc. Quelque part, on fait la même chose au niveau de l'Église, quoi. Et donc, il faut sortir de ça pour évangéliser et consacrer nos énergies à cela et pas...
Mais cette réforme organisationnelle dont vous parlez, que ce soit celle du diocèse évidemment ou au niveau de la province ou interdiocésain quelquefois, on entend bien dans ce que vous dites, c'est d'abord peut-être une rénovation de la vision pastorale parce que vous avez des acteurs pastoraux qui vont être, on va dire, transdiocésains ou provinciaux. Enfin, c'est quand même un gros changement dans votre exercice de votre ministère.
J'ai le sentiment parfois que nous sommes comme des châtelains qui furent riches,
oui,
avec beaucoup de personnel, beaucoup de propriétés, beaucoup de fermes, et qui veulent continuer de garder une façon de vivre qui n'est plus adaptée à leurs moyens présents. Et pendant ce temps, on perd de vue, ou on risque de perdre de vue, et aussi de l'énergie et des moyens, par rapport à ce qui est essentiel, et ce qui est essentiel pour l'Église, c'est la mission, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage, c'est la proximité, c'est tout cela. Eh bien, il faut trouver vraiment de nouveaux chemins pour vivre cela qui est essentiel, et trouver le bon positionnement du curseur entre ce qui est légitime de préoccupation de l'institution, des structures, des outils, il faut et puis ce qui est l'énergie à consacrer réellement à la mission.
Et c'est vrai que le rôle des laïcs, qui sera aussi d'ailleurs abordé dans cette assemblée plénière, est crucial et peut-être peut changer aussi en libérant peut-être les clercs d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas de leur premier ressort. Enfin, il y a aussi un travail à faire sur ce ministère laïque.
Alors oui, mais c'est plus que cela, j'ai envie de dire. Justement, dimanche, lors de la conclusion du pèlerinage diocésain, on a eu la restitution du travail synodal fait pendant une année. Et j'ai lu un extrait de message du pape François qui dit qu'il faut que l'on prenne conscience que la manière de faire synodale fait partie de la structure de l'Église. Elle n'est pas liée au nombre de prêtres et au fait qu'ils peuvent ou ne peuvent pas tout faire, ce qui, inconsciemment, dans l'esprit de certains, serait l'idéal. C'est-à-dire que s'il y avait tout d'un coup beaucoup de prêtres, eh bien tout ce travail-là serait remis en question. Il ne s'agit absolument pas de cela, mais il s'agit, en effet, de porter la mission ensemble, prêtres, laïcs, consacrés, chacun dans sa vocation et dans ses responsabilités, mais ensemble, l'Église est tout entière un peuple sacerdotal, le Concile Vatican II l'a martelé il y a 60 ans. Eh bien, il s'agit de nous mettre vraiment en position de vivre cela concrètement. Je tiens à ce que dans notre diocèse, chaque pasteur, nombreux ou pas nombreux, exerce sa charge pastorale avec une équipe d'animation pastorale constituée de laïcs de la paroisse, et c'est pas facultatif, c'est pas parce que lui ne peut pas tout faire, c'est parce que c'est comme ça que l'Église doit être.
Il s'agit de trouver la juste place de chacun et non pas que les uns soient les palliatifs des autres.
Enfin, absolument, dans les deux sens.
Voilà. Alors, on peut pas ne pas aborder la question suivante, Monseigneur Jean-Marc Mika. L'Église en France, vous savez, a été à nouveau secoué par un scandale, du moins une incompréhension lorsqu'on a appris récemment les abus commis par un évêque émérite. Ce sujet va sans doute traverser cette assemblée plénière. Comment l'abordez-vous ? C'est une question délicate, mais je pense que pour nos auditeurs, il est important qu'ils puissent vous entendre sur ce point.
Oui, oui. Eh bien, je partage la colère, l'incompréhension, le ras-le-bol exprimé. Hein. J'ai eu déjà des courriers qui disent cela, et je suis tellement d'accord avec eux. Comme eux, l'année dernière, après l'assemblée plénière qui a vu vraiment une conversion, et je crois profonde et sincère, de notre corps épiscopal, qui a été bouleversé par la présence de victimes et leurs témoignages, on s'est dit, ça y est, le plus jamais là, c'est pour maintenant. Bon, le plus jamais ça, c'est pour maintenant. Hélas, l'affaire en cours dit que ça sera sans doute beaucoup plus long qu'imaginé. Alors peut-être qu'il y avait un peu d'idéalisme il y a un an, mais c'est vraiment, vraiment épuisant. Et pour le tout nouvel évêque que je suis, ça casse un peu les jarrets, si je peux me permettre, dans la course que nous avons à mener pour l'essentiel. Donc, évidemment, le programme de l'Assemblée a déjà été bouleversé à cause de cette actualité, pour qu'on puisse y consacrer du temps. Je sens que vous avez dit en introduction que c'est aussi une sorte de réunion de famille, cette Assemblée plénière, et je sens que, comme dans toutes les réunions de famille, il y aura sans doute quelques explications entre nous, j'écouterai, je prierai, je compatirai. Tous ceux qui sont concernés par ces situations, et vraiment j'espère que l'Église se convertira pour... Je crois qu'elle a la capacité de le faire, j'ai confiance, elle est entre les mains de Dieu profondément, et donc elle le fera, assurément, mais il faut qu'elle le fasse vite.
Oui, le chemin est long, d'ailleurs vous y participez, vous avez rappelé que vous étiez maintenant membre d'un des 9 chantiers, dont un point d'étape sera fait à cette assemblée, et puis un rapport plus complet sur les conclusions de ces chantiers au printemps prochain. Pour terminer notre émission, Monseigneur Mika, peut-être... Moi, j'aime bien que vous puissiez terminer en adressant un mot à nos auditeurs qui vous écoutent. Pendant qu'ils vous écouteront, l'Assemblée plénière sera en cours. Qu'est-ce que vous dites à votre troupeau, à vos brebis ?
Priez pour nous, on prie pour vous, on donne notre vie pour vous, et on compte sur votre prière. On n'est ni plus sain ni pire que vous, les évêques que nous sommes. Je crois que sincèrement, on essaie de se mettre à l'écoute de l'Esprit avec vous, et on a besoin les uns des autres. Et si vous êtes en colère, dites-le. Si vous avez foi en l'Église, manifestez-le. Et s'il vous plaît, gardez l'espérance et confiance en l'Église malgré tout. Elle est le corps du Christ, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit, et ça, c'est inaliénable.
Gardons cette confiance que vous gardez vous-même. Merci beaucoup, Monseigneur Mika, et puis à la semaine prochaine avec Anne-Rose Jankovic.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Vincent.